Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 9 mai 2022, merci de choisir Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres. Procès de Al-Hassan Ag Mohamed Ag Mahmoud ce lundi devant la Cour pénale internationale CPI. L'ex-présumé djihadiste est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Tombouctou entre 2012 et 2013. Pour ses avocats, il est injustement accusé et ne devrait pas être condamné. Les travailleurs de la compagnie malienne de textile Comatex réclament 3 mois d'aéré de salaire. Le gouvernement avait annoncé la reprise très prochaine des activités de la Comatex. Cependant, les travailleurs s'impatientent. Culture et jeunesse, pilier du vivre ensemble, c'est le thème de la 5e édition du festival Ola Bamako. Il se tient du 13 au 14 mai prochain à Bamako. Je suis Hamsetou Touré à la présentation. Le procès de l'ex-présumé djihadiste Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a repris ce lundi devant la Cour pénale internationale. Dans sa déclaration liminaire, la défense a tenté de démontrer la non-culpabilité de l'ancien membre présumé d'ACMI et d'Ansardine poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les avocats ont estimé qu'Al-Hassan s'est retrouvé dans les groupes armés par instinct de survie, car menacé de toutes parts. Adama Amadou Aïdara.
Al-Hassan est un petit poisson qui a agi pour sa survie, a déclaré en substance Melinda Taylor, l'une des avocates de la défense. Selon elle, Al-Hassan n'avait d'autre choix puisque pris entre deux feux, le risque de torture de la part de l'armée malienne et celui d'être pris par les groupes djihadistes pour désobéissance. La défense a énuméré les épreuves subies par l'ex-djihadiste présumé, notamment la mort de sa fille malade de rougeole alors que sa famille était en route pour l'exil en Libye. Aussi, le présumé accusé a subi des tortures à la sécurité d'État malienne, selon l'avocate. Pour la défense, ces expériences vécues enlèvent toute fiabilité à tout témoignage qu'Al-Hassan a pu donner devant la CPI. Pour Melinda Taylor, Al-Hassan est injustement accusé et ne devrait pas être condamné. L'avocate affirme que son client était au mauvais endroit, au mauvais moment et appartenait au mauvais groupe ethnique. Elle dit que c'est l'État malien qui doit réparation à la population de Tombouctou, car c'est lui qui a abandonné cette population et non Al-Hassan.
Toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Plusieurs localités à travers le pays vivent toujours sous l'emprise des hommes armés non identifiés. Il s'agit notamment du cercle de Niafunke à Tombouctou et Bankas et Youarou, région de Mopti dans le centre. Ces situations d'insécurité ont entraîné l'enlèvement de nombreux habitants de ces localités, rapporte des sources locales. Le Point avec Issa Oumar Togola.
Dans le centre du pays, à Bankas, les 3/3 du cercle sont sous domination des présumés djihadistes, expliquent les sources locales. Les populations des communes de Baye, Wankoro, Dialassagou, Kologon, Touri, Ségué, Sokora déplorent l'absence des réseaux téléphoniques. Cela suite aux actes de vandalisme et de sabotage. À cela s'ajoute la fermeture de l'administration et des écoles. Toujours dans la région de Badiankara, hier dimanche, un véhicule a été enlevé à Ségué par des hommes armés non identifiés selon les sources locales. Plus tôt dans la nuit du jeudi soir au vendredi dernier, le maire de la commune de Bembiratama a été enlevé chez lui à Dogo. La localité est située dans le cercle de Youarou. Au nord du pays, à Niafunke, les enlèvements de personnes sont très fréquents, expliquent les sources locales. Plusieurs villes et villages sont assiégés par des hommes armés. C'est le cas de Saraféré. À en croire plusieurs témoignages sur place, la ville est occupée par des présumés djihadistes.
Je le disais dans les titres, le comité syndical de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM de la Comatex SA de Ségou a organisé le samedi dernier une conférence de presse. Il s'agissait d'informer les hommes de médias et la population sur les démarches entreprises pour la réouverture de l'entreprise et le paiement des aérés de salaire. Selon le secrétaire général, l'État s'était proposé à payer 3 mois de salaire qui s'élève à plus de 929 millions de francs CFA, une décision qui peine à être effective, affirme Abdoulaye Diakité, secrétaire général du comité syndical de la Comatex SA. Il est au micro de notre correspondant de Ségou, Mohamed Sissé.
Cette conférence de presse, c'est mettre tout le monde au même niveau d'information concernant la vie même de la Comatex, l'évolution. Pour l'ouverture de la Comatex, il y a une commission qui est mise en place. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est entre l'État malien et la Chine. L'État se propose d'acheter la part d'action quand même des Chinois. Mais les Chinois n'ont pas voulu ça. Ils ont voulu dire qu'ils vont céder aux francs symboliques. Il s'agit du paiement quand même de nos arriérés de salaire. L'exécution de notre grosse. Ça fait 929 900 000 francs CFA. Ça fait les 3 mois de salaire et les dommages et intérêts. On ne peut pas dire qu'on est confiant parce qu'on n'a même pas eu les 600 millions qui devraient être payés en avril.
Partons à présent à Yanfolila. La ville de Yanfolila dispose désormais d'un nouveau commissariat. Le tout premier commissaire et son équipe ont été installés jeudi dernier 5 mai 2022 dans la localité. Pour la population, c'est un souhait de plus de 10 ans qui vient d'être exaucé. Le nouveau commissaire a invité la population à la collaboration pour une meilleure sécurisation de la ville. Le point avec notre envoyé spécial à Yanfolila.
L'ouverture de ce nouveau commissariat a été un ouf de soulagement pour les populations. Elles peuvent désormais dormir sur les deux oreilles, disent-elles.
Nous sommes très contentes. Je n'ai pas de mots. On a voulu cela depuis longtemps. Aujourd'hui, Dieu a exaucé notre vœu.
C'est un ouf de soulagement pour nous les jeunes. Souvent, nous parcourons des terrains très dangereux. Nous leur demandons de travailler dans les règles de leur métier.
L'orpaillage est une activité génératrice de revenus à Yanfolila. C'est aussi une ville frontalière. Des éléments qui constituent des défis selon le nouveau commissaire, Mamadou Youba Diara, nouveau chef de la police de Yanfolila.
Dès ce soir, nous allons commencer à travailler. Et sachez désormais que nous faisons partie des forces de sécurité locales. Tant que vous ne dormirez pas, nous ne allons pas dormir. Une chose est claire, cette mission-là ne peut pas être accomplie sans l'accompagnement de la population.
A noter que la demande d'un commissariat à Yanfolila a été faite depuis 2008 par les autorités locales. Pour rappel, la localité disposait déjà de la gendarmerie, de la garde nationale, de la douane et les eaux et forêts. Juliette Koulibaly, de retour de Yanfolila pour Studio Tamani.
Autre actualité du jour, Eric Sekouchel, ex-défenseur des Aigles, est le nouveau sélectionneur du Mali. L'annonce a été faite ce week-end par la Fédération malienne de football. Eric Sekouchel, ancien entraîneur de Marseille Consola et de l'US Boulogne en France, c'est sa première fois de diriger une sélection nationale qui est donc l'homme. Quelles sont les attentes des Maliens? Pourra-t-il relever les défis des éléments de réponse dans ce reportage de Dramane Maïga.
Âgé de 44 ans, Eric Sekouchel a évolué dans l'équipe nationale entre 2004 et 2006 en tant que défenseur. Il aura la lourde responsabilité de poursuivre la construction de l'équipe et de faire face aux compétitions à venir. Les amoureux du football malien attendent beaucoup du nouveau sélectionneur.
C'est une fierté d'abord d'avoir un entraîneur qui a déjà pratiqué, qui connaît aussi l'équipe nationale. Il est aussi malien, que le football malien puisse retrouver un peu ses lettres de noblesse.
Nous voulons vraiment que les Aigles du Mali soient vraiment au sommet du foot.
Avec l'arrivée du nouveau entraîneur, je souhaite que l'équipe malienne aille loin. Si l'État investit, il faut qu'il y ait des résultats.
Bien qu'il soit imprégné du monde sportif malien, les experts dans le domaine estiment qu'il ne faut pas mettre trop de pression sur Eric Sekouchel. Souleymane Bobo Tunkara, directeur de publication français à l'AMAP.
Je pense que le fait de le choisir, c'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Il ne faut pas tout de suite s'attendre à des résultats. S'il a des résultats dans l'immédiat, pour moi, ça, c'est un bonus. Il faut lui donner le temps de reconstruire l'équipe. Il faudra que lui aussi amène un nouvel état d'esprit de travail, surtout au niveau de la communication.
Le défi immédiat pour le tout nouveau sélectionneur est la qualification des Aigles du Mali à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire en 2023. Pour les éliminatoires, le Mali affrontera dans le groupe Congo-Brazzaville, la Gambie et le Soudan du Sud. Son premier match officiel sera le 4 juin face au Congo.
La 5e édition du Festival Ola Bamako, organisée par l'ambassade d'Espagne au Mali, aura lieu le 13 et le 14 mai au Musée National. Le thème de cette année est « Culture et jeunesse, pilier du vivre ensemble ». Selon les organisateurs, l'objectif de ce festival, c'est faire la promotion des synergies et des échanges culturels entre le Mali et l'Espagne. Ils estiment que la culture est un outil de paix pour le vivre ensemble. Au cours de ces activités, des artistes espagnols et maliens présenteront leurs œuvres et créations artistiques au public bamakois. Nathana Dombélé, membre de la commission d'organisation artistique de Ola Bamako, est au micro de Lala Aïcha Wallet Infa.
Ola Bamako, qui est tout simplement un échange culturel, un pont culturel entre le Mali et l'Espagne sur beaucoup de domaines, sur le domaine musical, sur le domaine de danse, le domaine vraiment de la formation, parce qu'on travaille avec le conservatoire. On fait venir des professeurs de danse, des professeurs de design graphique, des ateliers dans la musique, comme on le dit, des masterclass, parce qu'ils vont faire la musique flamenco, qui n'est pas assez connue ici. Donc, au-delà des festivités, on a ce côté de formation qui profite à nos jeunes étudiants. Alors, le festival va se dérouler pendant 2 jours, les samedis et les vendredis. Les artistes invités venant de l'Espagne sont David Paloma et Argentina, Moudiara, Mohamed Djabi, Mariamba, Fusco Geneva, Jenks B, Yagoua Sagara de Bluff, Doudou de Tamasna.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. Le mariage collectif de Banamba de cette année se déroulera le 19 mai prochain. Entre 200 et 400 mariages seront célébrés. L'annonce a été faite la semaine dernière par la chefferie traditionnelle de Banamba. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'instant. La question A. L'affaire de Porta Poti à Dubaï suscite de nombreuses interrogations au Mali. Parmi elles, l'éducation des filles dans nos sociétés. Au Mali, certains traditionalistes et sociologues imputent cette dépravation des mœurs à la démission des parents et à l'appât de gains faciles. Notre reporter Fatia Tara s'est intéressé à la question, suivant donc son reportage.
Affaire Porta Poti, c'est le sujet qui fait débat en ce moment dans le pays. C'est aussi le cas dans ces grains à l'université de Bamako. Ces jeunes gens estiment que rien n'explique cette pratique. Elle ternit, selon eux, l'image de toute l'Afrique.
C'est en tant que dame, faut te valoriser en travaillant dur. Du jour au lendemain, ils deviennent très célèbres comme ça. Tu ne sais même pas par quelle magie.
Je ne pensais pas que un être humain peut aimer l'argent jusqu'au point de vouloir faire ce genre de choses. Mais heureusement, ils ont enlevé le voile. Tout le monde connaît la réalité.
Si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler.
Elles ont rabaissé l'image de la femme.
Pour ne pas être esclave de l'argent, il faut travailler dignement.
Des sociologues pensent que c'est l'effet de la mode et l'appât des gains faciles qui sont à l'origine du phénomène. Docteur Mohamed Abdoulaye Haidara, enseignant-chercheur à l'école normale supérieure de Bamako.
Il y a le côté lucratif lié au fonctionnement général des sociétés humaines actuelles qui révalorise de plus en plus la capacité d'une personne à pouvoir se procurer des biens rares.
Cela montre à suffisance que les parents ont démissionné par rapport à l'éducation de leurs enfants, souligne le traditionaliste Bala Konaté.
Cela est dû à la démission des parents. Personne ne conseille plus son enfant à respecter les mœurs. Auparavant, les parents, leurs frères et voisins éduquent de façon collective un enfant. Mais de nos jours, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et si tu te hasardes à gronder un enfant, son parent risque de te traduire en justice.
Cette situation n'est pas sans conséquence, regrette le sociologue Mohamed Haidara.
La perte même de la morale, que ceux qui étaient considérés comme étant mauvais dans le temps, considérés aujourd'hui comme étant une revalorisation même de la personne. Parce que la personne n'est plus jugée à partir de la probité morale, mais plutôt à partir de ce qu'elle gagne.
À la question de savoir comment mettre fin au phénomène, des traditionalistes font des propositions. Bala Konati.
Il est essentiel que nous revenions à nos valeurs et cultures. Et c'est seulement de cette manière que nous pourrions changer la donne. Chaque parent doit veiller à ce que son enfant soit respecté de nos traditions, car c'est une affaire de génération.
À noter que beaucoup d'érudits de la confession musulmane et chrétienne, tous s'accordent sur l'interdiction du phénomène.